I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et maintenant, voici les vedettes de notre spectacle.
J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute.
Bon, bah lui, il va me prendre la tête.
Jack, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises.
Ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche.
Zut, re-zut, et re-zut derrière.
Ah, je vois, monsieur se fout de moi, monsieur fait d'ironie.
Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque?
Ben ça, c'est du spectacle.
Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
All this beautiful, le vieux c'est beau et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Salut les amis.
Hello.
Salut.
Hello.
Alors ces résolutions depuis la semaine dernière, ça tient bien?
Voire même.
Putain, ça marche pas du tout. Hein. Ce voilà. Drive Philippe Lachaud de January, Arthur, ça se passe comment?
J'ai pas pu m'empêcher, j'en ai maté 3 en l'espace de 2 heures là, c'est compliqué.
Allez, passez à la barre, il est temps d'en finir avec les fausses allégations et les complots de toutes sortes. Retour à l'année 0 du complot politique contemporain.
If I answer that question you keep asking, if I give you the name of the big enchilada, you know, then it's Bon Voyage Dino. I mean like permanent. I mean like a bullet in my head, you dig? Does that help you see my problem a little better?
Out of the corner of my eye, I saw a flash of light in the bushes, and then shots rang out.
No cloak and dagger stuff, you know. They call it Operation Mongoose.
It's gonna be okay, Dave. You just talk to us on the record and we'll protect you. And I guarantee it.
You are so naive.
JFK d'Oliver Stone avec Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Gary Oldman et Laurie Metcalf qui sort en Blu-ray 4K Director's Cut Edition chez Atelier d'Images. Est-ce qu'on peut vraiment dire, alors je crois Alexis que c'est l'un de tes films favoris.
C'est l'un de mes films préférés, ouais.
Est-ce qu'on peut dire qu'avec ce film en 91, vraiment Oliver Stone fixe en quelque sorte ce qui va devenir le grand film paranoïaque, conspirationniste qui va se développer ensuite jusqu'à la fin du XXe siècle, au début du XXIe.
Bah, je dirais que JFK est un double accomplissement, puisque c'est à la fois effectivement la version maximale définitive du film hollywoodien conspirationniste, et c'est aussi un film absolument matriciel et encore aujourd'hui, je pense, la version maximale du film dossier. Faut comprendre que Oliver Stone, sa carrière, il va la démarrer comme cinéaste en 74, si ma mémoire est bonne, avec un film qui s'appelle Seizure, sauf que bah, son deuxième long métrage, il le réalise en 81. Pourquoi c'est important ces repères temporels? Parce que donc Oliver Stone, en réalisant son premier long en 74, bah, techniquement, il émerge au cinéma en même temps que la génération du nouvel Hollywood. Et on le sait, il y a eu pas mal de films paranoïaques à cette époque-là qui questionnaient les institutions, qui questionnaient les discours officiels. J'en cite un qui est le plus emblématique de tous à cause d'un assassinat de Alan J. Pakula de Parallax View, qui d'ailleurs aborde déjà la mort de Kennedy, l'assassinat de Kennedy, mais l'aborde sous un angle détourné. On nous parle d'un sénateur qui est candidat à la primaire qui se fait assassiner, mais en fait peut-être qu'il y a une conspiration, puis un journaliste qui enquête, et là aussi il y a une commission d'enquête, et tout ça fait évidemment écho à la mort de Kennedy, mais de manière indirecte.
En 74, c'est Conversation secrète de Coppola aussi.
Exactement. Donc toutes ces questions-là sont abordées par le nouvel Hollywood, et notamment la mort de Kennedy. L'image même de la mort de Kennedy, ce crâne qui explose, a marqué cette génération d'auteurs. Si vous avez vu Bonnie and Clyde d'Arthur Penn, à la fin, quand ils se font zigouiller près de la bagnole, on voit un bout du crâne de Clyde qui vole. C'est une référence filmique évidente à la mort de Kennedy. Mais le truc, c'est que Oliver Stone, comme je l'ai dit, dès son deuxième long métrage, bah, c'est les années 80. Et les années 80, c'est la mort du nouvel Hollywood et c'est le retour en force du cinéma institutionnel qui, lui, pour le coup, n'a pas forcément à cœur de critiquer les institutions. Et pourtant, c'est la veine que va creuser Oliver Stone, avec notamment un film comme Platoon, par exemple, qui est l'un de ses films les plus connus, qui va aborder la question de la guerre du Vietnam. D'ailleurs, parenthèse, à la différence de plein de cinéastes du nouvel Hollywood, Oliver Stone, il a fait le Vietnam, donc il sait très bien de quoi il parle, et le Vietnam a une importance évidente dans JFK, et puis donc, il va arriver, en 91, à réaliser JFK, qui est donc un film d'enquête qui suit le parcours d'un procureur de la Nouvelle-Orléans, Jim Garrison, qui à la base est rattaché de très très loin à l'enquête sur la mort de Kennedy, puisque lorsque Kennedy se fait tuer à Dallas le 22 novembre 1963, le suspect numéro 1, Lee Harvey Oswald, on découvre qu'il a fréquenté des milieux potentiellement d'extrême gauche pro-Fidel Castro à la Nouvelle-Orléans. Et donc, Jim Garrison va mener une petite enquête de voisinage, essayer de déterminer s'il y a des connexions à établir. Sauf que Lee Harvey Oswald se fait assassiner dans des circonstances troubles 48 heures seulement après la mort de Kennedy. Donc l'enquête, elle est plus ou moins réglée. On a un suspect parfait. En plus, il est mort, donc il n'y a pas de procès. Emballé, c'est pesé. Garrison passe à autre chose. Quelques années après, il y a la commission d'enquête officielle, la commission Warren, présidée par le juge Warren, qui va statuer officiellement que Lee Harvey Oswald a tué le président seul. Il a agi seul, il n'y a pas eu de conspiration, c'est juste un mec pro-cubain qui ne pardonnait pas à John Fitzgerald Kennedy d'avoir instauré un blocus naval sur l'île de Cuba pour contrer le régime castriste et qui du coup a assassiné le président pour ça. Et en lisant les rapports de la commission Warren, qui sont littéralement des milliers de pages, Jim Garrison va se rendre compte qu'il y a plein de trucs qui clochent et commencer du coup à mener en secret, en tout cas d'abord en secret, une enquête pour essayer de déterminer s'il n'y a pas un petit peu plus que ça, et il va découvrir potentiellement une gigantesque machination qui remonte jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Et c'est un film qui est super important, déjà dans la carrière d'Oliver Stone, parce que je pense que c'est le moment où Oliver Stone, enfin, est en pleine possession de ses moyens cinématographiques et a enfin la possibilité de tenir un discours politique qui lui appartient complètement, surtout que maintenant on découvre le film en version director's cut. Et en même temps, c'est une étape charnière parce que c'est le moment où le cinéma s'empare frontalement de la mort de Kennedy et du traumatisme de la mort de Kennedy, que jusque-là, il avait abordé souvent par des biais détournés.
Simon.
Oui, moi j'ai redécouvert le film il y a très peu de temps à la faveur de sa réédition en Blu-ray, en 4K et tutti quanti. Ce que je trouve assez fascinant dans le film, moi je l'avais découvert mais très jeune, à un âge où je ne comprenais pas tout ce qui se jouait à l'écran, mais où j'étais emporté par la maestria du montage. Le montage et l'intensité faisaient que naturellement je regardais et que j'étais fasciné. Quand même je comprenais pas bien tous les enjeux, quand même Kennedy pour moi, je savais que c'était un président et qu'a priori il n'était pas mort en éternuant.
Ou en éternuant son cerveau éventuellement.
Oui voilà c'est ça, par l'arrière, ce qui est pas évident à faire et ce qui demande quand même, pas chez vous quoi. Mais donc ça a été une totale redécouverte parce que, et c'est un peu le cas finalement de la partie intéressante de la filmographie d'Oliver Stone, c'est quelqu'un dont le style me semble absolument singulier et je suis incapable de le comparer à quelqu'un d'autre. Je veux dire, même chez Spielberg, je vais trouver des traces de cinéastes classiques, je vais trouver des traces des grands metteurs en scène qu'il aime, tu vois, par exemple. Chez Stone, il y a un espèce de magma d'images, de flux, de densité qui ne sont emmenés que par l'électricité du montage, lequel souvent ça colle sur une voix, sur un flow comme ça. Je vois pas beaucoup d'équivalents dans l'histoire du cinéma et rien qui me mette moi dans des espèces d'états de stase ou d'extase comparables. Et ce qui est intéressant, si tu veux, c'est qu'on parle de cinéma parano et complotiste au sens, tous les deux, si j'ose dire, noble du terme, parce que c'est littéralement un film qui avance la thèse d'un complot. C'est donc un film complotiste, pas complotiste comme les gens qui ne savent lire que les lettres qui forment les mots Didier Raoult et sont convaincus d'être médecin. C'est des vraies questions qu'il faut, c'est vraiment à nuancer parce que en réalité quand tu regardes le film, il te donne le sentiment d'une lumière aveuglante qui rééclaire tout. On n'est pas exactement comme dans le cinéma des années 70, on est dans le cinéma du trouble, du doute, de la zone grise morale, de la paranoïa. On n'est pas dans Conversation secrète où on est toujours sur la crête de la folie qui guette et de la démence. Là, on n'est pas tant dans un trouble psychiatrique que dans une espèce de vérité qui finit par éclater, qu'on ne peut plus retenir. Et c'est la grande force du film d'Oliver Stone. Moi, il y a une séquence, à mon sens, qui illustre tout à fait ça, et qui illustre ça parce qu'elle te donne le sentiment de l'irréfutable. C'est ce moment donc, le personnage de Costner rassemble ses lieutenants et leur dit, ses lieutenants qui sont plutôt d'avis à ce moment-là, de lui dire « Chef, il n'y a peut-être pas grand-chose finalement, vous essayez de... »
Ils sont sceptiques.
Oui, ils sont sceptiques. Ils disent, voilà, il n'y a pas vraiment d'affaire, en fait. Et là, il leur dit, attendez, regardez, les gars. C'est sûr, quand vous lisez le rapport, en gros, grosso modo, vous lisez que Lee Harvey Oswald, il a probablement fait ça, fait ci, fait ça, dans tel ordre. OK, mais il l'a fait dans ce bâtiment-là, regardez, il est ici. À côté, il y a tel truc. Enfin, bref, il fait une démonstration géographique. Cette scène, elle est incroyable parce que c'est un pur effet de style qui nous donne l'illusion d'une réalité intangible et indiscutable. Alors que ça n'est qu'un effet de cinéma. Ce sont des plans qui s'enchaînent pour nous donner une interprétation. Du réel. Et la manière dont Stone joue en permanence avec l'interprétation, le récit, le réel,
des niveaux de récits enchâssés. Moi, je suis assez curieux de cette période. J'ai pas mal lu sur Kennedy, sur son assassinat, etc. Je ne vois pas de séquence plus incroyablement intelligente et efficace pour faire comprendre les doutes et les problématiques que celle où toujours le personnage de Costner est avec un de ses deputies, avec un de ses adjoints, qui lui montre, qui dit écoute, vas-y, essaye de faire le tir. Essaye de faire ces trois coups de feu en moins de 6 secondes. Et bien sûr, c'est du cinéma. Bien sûr, c'est un écho fictionnalisé. Il n'empêche, Stone arrive à abattre presque le quatrième mur, à me faire croire que je suis immergé dans le réel, moi avec une puissance qui me semble tout à fait unique. Quoi. C'est assez sidérant.
Tu ne peux pas laisser quand même de côté le double épisode de Code Quantum où le docteur Sam Beckett est dans la peau de Harvey Oswald. C'est quand même une maîtrise en termes de mise en scène et de photographie.
Oh, j'avais oublié cette série. C'était cool, ça, Code Quantum.
C'était très cool. Vas-y Arthur, je t'en prie.
Moi je voulais juste continuer le propos de Simon parce que j'ai découvert le film moi il y a deux jours et je l'avais jamais vu auparavant. Et contrairement à Simon, moi je ne connais pas très bien l'histoire de l'assassinat de JFK. Et ce qui est hyper puissant et assez vertigineux, c'est que je regarde le film et je sais, parce que je connais la figure d'Oliver Stone, et parce qu'Oliver Stone maintenant il a fait JFK il y a plus de 30 ans, et depuis on a bien vu l'évolution de son discours et l'évolution de son parti pris politique et de ce qu'il veut raconter et même de ce qu'il voulait raconter à l'époque de JFK et comment ça a été interprété. Je peux pas m'empêcher de voir le film et me dire mais putain, mais ça a l'air vrai en fait. Et tout le long du film, je me pose la question de, j'ai envie de mettre pause et d'aller sur mon ordinateur taper le vrai du faux dans le film JFK, parce que j'ai envie de savoir, mais attends, est-ce qu'il y a vraiment eu ce personnage ?
Est-ce que Mister X existe ?
Tu vois ? Et en fait, donc, tout le long du film, je suis très dérangé parce que d'un côté, je trouve que la mise en scène est folle, le montage est absolument incroyable. Et puis intervient un moment, un personnage qui fait un truc qui me laisse à penser que Oliver Stone est plus malin que ce qu'on peut lui faire dire. C'est qu'il y a un moment où il a un propre commentaire sur son propre complotisme. C'est qu'il y a un moment où, c'est pas vraiment un spoil, mais disons qu'il y a
Le doute d'un personnage.
Il met en scène le doute d'un adjoint, qui est en plus un adjoint important, c'est celui qui est incarné par Michael Rooker. Et la manière dont lui-même lui dit « Mais gars, là, tu vas vraiment trop loin », la manière dont il le filme, la manière dont il filme l'échange, la manière dont ça se passe entre les deux, j'ai là l'impression que Oliver Stone fait un propre commentaire sur son propre complotisme. Et là, je me dis « Ah, ok. » Donc, en fait, il a conscience de tout ce qu'il est en train de me raconter. Et il a conscience de la limite de son propos. Et là, je trouve ça, vraiment fou.
Ce qui est passionnant, c'est que ce que tu décris là, c'est ce qui a été à l'origine du scandale qu'a fait le film à sa sortie, puisque des historiens, des universitaires, beaucoup de gens et des politiques aussi ont reproché à Oliver Stone de manipuler les faits historiques, de rajouter des faits, de rajouter des personnages qui n'existent pas, donc de truquer la vérité. Et le débat qui s'en est suivi aux États-Unis a eu des conséquences politiques, puisque l'année d'après la sortie du film, en 1992, une loi est votée, l'Assassination Materials Disclosure Act, qui vise à déclassifier et donc à rendre public certains documents relatifs à l'assassinat de JFK. C'est-à-dire que ce film, parce qu'il avait un propos politique qui prenait
des proportions
importantes et surtout des largesses avec la vérité historique, a créé et a permis de déclassifier un certain nombre de documents pour relancer, pour rendre public, notamment aux chercheuses et aux chercheurs, un certain nombre de faits historiques. Sophie, sur le film.
Je fais un peu moins dithyrambique que vous, même si je trouve que le film fait part d'une grande maestria dans certaines parties. Je dois avouer que même si je suis assez peu familière du cinéma d'Oliver Stone, ce que tu disais Simon sur le montage, je suis d'accord, son montage est complètement unique. Moi, c'est un montage qui me gêne un peu. J'avoue que vous commencez à me connaître un peu, j'aime un cinéma qui prend son temps, j'aime un cinéma qui fait des plans un peu longs, qui va utiliser plutôt des mouvements de caméra que des cuts. Et alors là, des cuts, il y en a. Donc ça me dérange un peu, surtout que même si le film est vraiment très dense, riche, documenté, je pense que c'est un film un peu unique dans l'histoire du cinéma, à ce point déjà de traiter un assassinat de président dans un contexte particulier. J'ai l'impression que le mouvement du thriller politique et du floutage du réel est quelque chose qui se passe un peu. Moi, je me suis demandé quel était le premier thriller politique que j'avais vu, vrai ou pas vrai, mais c'était vraiment l'affaire Pélican. Et en fait, c'est sorti une année après.
Réalisé par Alan Pakula, qui a réalisé The Parallax View, donc à cause d'un assassinat.
Voilà.
Donc, c'est un super film, l'affaire Pélican. C'est vachement cool.
Oui, c'est vachement bien. Et là, donc je vois une espèce de parallèle dans ce côté paranoïaque, peur des institutions, qui fait, en fait, qui se place juste avant un autre questionnement que je soulève souvent, qui est la fin des années 90, qui est une peur du réel général. Là, on est sur une déviance des institutions, sauf que là, le film parle d'un événement plus ancien. Le truc, c'est que moi, je vois le film... pareil hier. J'y connais pas grand-chose dans les détails. C'est-à-dire que je vois les événements, je sais ce qui se dit, je l'ai étudié en histoire, mais pas grand-chose de plus. Le film est très confus. La première partie, et Alexis m'a bien dit que c'était normal parce que les informations arrivaient au personnage.
J'y reviendrai là-dessus.
De manière étouffante et névrotique. Et je trouve que le montage appuie ça. En fait, j'aime pas les films où je me sens débile devant. C'est-à-dire que vraiment, pendant bien 30 minutes, je me suis dit « Ok, je n'arrive pas à retenir autant de noms de personnages, de personnes dont je n'ai jamais entendu parler. Je me souviens plus du nom du personnage joué par Joe Pesci. Je me souviens juste qu'il a des sourcils bizarres. Et puis, attends, il y en a deux qui s'appellent Jack. Il y en a un, c'est Jack Lemmon, donc en plus, c'est son vrai prénom. Et l'autre, je sais plus qui c'est. Et j'ai un souci avec les noms. Et là, c'est vraiment... La caractérisation des personnages, c'est hyper important. Sauf que là, comme on parle de personnages réels, qui en plus sont des personnages pas connus, enfin vraiment, il y a une espèce de trouble. Donc il faut que j'attende la moitié du film pour réussir à me dire « Ok, je crois que je commence à comprendre. » Donc je sais que c'est le but du film. Cependant, je vais pas mentir, je me suis sentie super bête pendant une bonne partie du film. Et c'est pas un sentiment super agréable, parce que j'ai pas l'impression non plus d'être la dernière des cruches. Là, il y a vraiment un étouffement d'informations. Il faut que j'attende la scène de procès pour voir la grandeur du film, pour voir qu'en fait, tout est calculé, que c'est un effet d'accélération de train, que le film nous a emmenés vers un climax très long, qui est cette scène de procès, que je trouve impeccable de A à Z. Je n'ai rien à redire. Je trouve que c'est, c'est un bijou du cinéma, cette scène. Mais je dois bien confesser que le début a été douloureux. Hein.
Mais tu comprends pas l'intrigue, tu veux dire, un peu à la manière de n'importe quelle intrigue d'un film de James Bond d'espionnage où on comprend littéralement rien, mais à la fin le méchant meurt ou pas ?
Je les comprends toutes, moi, mais chacun son point de vue. Hein.
Je comprends jamais rien aux intrigues, mais jamais rien. Mais c'est un truc d'enfant, c'est-à-dire que je regardais James Bond, je trouvais ça super, j'essayais de comprendre l'histoire, je suis là, mais non, là je sais plus, je comprends pas, je sais pas, il y a un rebondissement, je sais pas qui est cette personne, ah bon bah je m'en fous. Le méchant, ah bon c'est bon, il meurt, tout va bien. J'ai cessé d'essayer de comprendre les intrigues des films de James
Bond. Là tu vois, c'est juste que j'étais en mode... Ok, et de temps en temps, on va pas mentir, on faisait pause, je fais « Attends, laisse-moi essayer de te dire ce que j'ai compris, comme ça tu me dis si j'ai bon. » Donc, ce mec-là, il entraîne des gens pour faire semblant d'être communiste, pour aller à Cuba, mais donc, Oswald, oui. Il a été vu avec des gens qui traînaient, avec des gens qui étaient entraînés par ce mec pour faire semblant d'être communiste, ok, c'est ça ? Bon, lequel s'appelle Jack déjà ? Genre vraiment, c'était. Je suis désolée, mais j'avais l'impression d'avoir.
Non, mais je précise pour aller dans ton sens que je crois avoir vu le film 4 ou 5 fois. Il m'a fallu 2 visionnages pour comprendre le film.
Donc on est tous cons autour de cette table.
Ouais, mais en fait. Mais c'est là où pour moi le film atteint un niveau de génie narratif qui a été rarement atteint dans le cinéma américain de la seconde moitié du XXe siècle. En tout cas, pas à ce niveau de radicalité-là. C'est qu'il faut bien comprendre que. Quand le meurtre de Kennedy a lieu, d'abord il y a le meurtre, tout de suite après on arrête un suspect qui est le suspect numéro 1 et qui est clairement considéré par tout le monde comme un coupable potentiel. Il est assassiné par un vulgaire gangster qui visiblement va se payer un moment de gloire en assassinant à la télévision le suspect numéro 1 du meurtre du président. Bon, il n'y a plus de suspect et du coup il n'y a plus vraiment d'enquête. On va quand même faire une commission. La commission dit que oui, c'est lui qui a tiré, puis il était tout seul. Voilà, c'est limpide. Sauf que quand le rapport de la commission sort pour le personnage de Jim Garrison et qu'il consulte ce rapport qui fait 888 pages dans son exemplaire original, sachez que en tout est...
Trois chiffres, alors, 8 qui se suivent.
Ouais, alors sachez, pour l'anecdote, si on rassemble tous les documents que le gouvernement américain possède sur la mort de John Fitzgerald Kennedy et dont il a déclassifié une partie, on estime que c'est 5 millions de pages. Voilà, donc c'est conséquent. Et donc, quand Garrison lit le rapport, lui, il voit bien qu'il y a des trucs qui clochent dedans, il va commencer à chercher et il se rend compte que tout est réversible. Et donc, c'est normal.
Que sa femme, elle s'ennuyait s'il a le temps de lire tout ça, quoi.
Non, mais il faut comprendre que. Pour le personnage, c'est d'abord un maelstrom d'informations qui ne fait pas sens. C'est « Ah, on m'a présenté ce personnage comme blanc. En fait, il est peut-être noir, ou peut-être qu'il est gris, ou peut-être qu'il est blanc et noir simultanément en alternance. » Et puis, il a parlé avec Machin. Mais Machin habite à côté de Bidule. Et Bidule, on sait qu'il travaille pour Trucmuche. Mais du coup, est-ce que Trucmuche est relié à Bidule par le biais de Machin ?
Et lequel s'appelle Jack ?
Non, mais... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal que le film soit incompréhensible. Parce que de fait, l'histoire pour Garrison, au début... Elle est incompréhensible. Flash forward, vous êtes 3 heures plus tard dans le film, il y a une séquence de procès, je ne détaille absolument pas ce qui s'y passe, où Garrison fait un plaidoyer et il expose ses conclusions d'enquête. Tout est clair.
Tout est clair.
Tout t'es clair. Ah, et en fait, le film est de plus en plus clair parce que tout simplement, l'enquête met de plus en plus de trucs à nu. Et c'est là où le film est génial. Il y a plein de films d'enquête. En fait, quand on prend un petit peu de distance, on se rend compte que ça devrait être compliqué le début d'un film d'enquête. Ça devrait être beaucoup d'informations, ça devrait être beaucoup d'hypothèses, puis ça devrait être beaucoup de témoignages. En fait, c'est jamais ça parce que c'est l'efficacité qui prime. Donc, nous, spectateurs, contrairement aux personnages, on n'est jamais perdu. C'est limpide du début à la fin. Bah, Oliver Stone, il fait le parti pris de choisir une narration qui épouse ce que c'est vraiment qu'une enquête. On commence dans le nébuleux et le mystère le plus total, et puis progressivement on enlève des couches, on réorganise les éléments, et là ça commence à faire sens et il commence à y avoir une narration. Il y a une séquence qui me terrasse à chaque fois que je revois le film, c'est le moment où Garrison se rend à Washington pour rencontrer un mystérieux contact, on saura jamais qui c'est, le fameux monsieur X.
C'est le papa du mec dans 24 heures chrono.
Voilà, qui est joué par Donald Sutherland, et le gars va lui déballer en 15 minutes, tout ce que pourrait être cette espèce de gigantesque conspiration qui cherche à mettre à nu. Et en fait, cette séquence-là, c'est un point de pivot. À partir de là, le film est parfaitement compréhensible. Il faut être concentré, mais il est parfaitement compréhensible. Avant ça, c'est le bordel. Et en fait, c'est ça que je trouve génial, c'est de confronter son spectateur à un bazar narratif pas possible qui est difficile à encaisser. C'est, franchement, c'est prendre un vrai risque en tant que cinéaste. Mais pour moi, c'est payant parce que aucun film ne me fait ressentir à quel point c'est vertigineux de mener une enquête qui plus est sur un fait divers comme celui-là, aussi bien que JFK.
J'ai une question. J'ai une vraie
question.
Qui a
tué
non. Oui. Non, parce que Garrison, il l'a dit dans la vraie vie, parce que du coup, il a rencontré Oliver Stone, ils ont parlé longtemps, il a décidé de finalement pas adapter son livre, mais un autre livre.
Oui,
donc, voilà.
Garrison qui joue d'ailleurs
le juge Warren.
Warren. C'est quand même assez drôle.
C'est assez marrant, ouais.
Mais il a dit lui-même que dans son bouquin et dans son enquête, il avait rencontré des personnes qui l'ont un peu eu, entre guillemets. Il s'est laissé un peu berner par certaines théories un peu fumeuses, que tout n'était pas complètement vrai, même de ce que je comprends dans le déroulé du film. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai pas pu m'empêcher de me demander si justement Monsieur X, ça c'était pas partie des personnes fumeuses. Donc en fait, moi, le seul point négatif, comme à chaque fois, vu que je déteste me laisser complètement, j'aime pas le terme, endoctrinée par des images qui m'ont l'air cohérentes et je préfère toujours faire des recherches parce que j'ai peur des médias. Qu'est-ce que je dois retenir au final de ce film? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui ne l'est pas, tu vois?
Simon,
ce qu'il faut retenir aussi, justement, c'est que c'est l'occasion pour Oliver Stone de plonger dans le magma d'une époque qui est quand même très particulière, qui est les années 60, où les États-Unis sont au fait de leur domination sur le monde, au fait de la guerre froide, au sommet, je veux dire, d'intensité de la guerre froide, et où le capitalisme est à son sommet de glorification internationale. Bah, qu'est-ce que ça donne? Ça donne cette époque délirante où il y a une politique et une diplomatie officielle des États-Unis, mais il y a aussi une politique et une diplomatie de l'ombre des États-Unis, où on entraîne des révoltés cubains pour qu'ils aillent reprendre Cuba, parce qu'à Cuba, bah, on avait des casinos, puis la mafia elle avait des casinos, puis ça rapportait plein de pognon, et on aurait bien retrouvé tout ça. Mais peut-être qu'en fait, on entraîne aussi des faux rebelles pour peut-être faire plaisir aux gens les plus à droite et aux machins. Et en fait, on est dans un monde de faux-semblants, littéralement de faux, de miroirs, infini. Tu sais, comme quand tu te reflètes dans un reflet de reflet de reflet de reflet de reflet de reflet.
Dans les galeries des glaces, dans les fêtes foraines.
Absolument, je pense à ça. Et en fait, le film explore et ausculte aussi cette époque où il te dit, mais c'est insondable, c'est insoluble. Et il y a peut-être un complot, mais ce qui est certain, c'est que je n'arriverai jamais au bout du fil, jamais au bout de la logique, parce que si en plus il y a un complot, c'est un complot qui est un mélange, alors bien sûr, de complots actifs pour certains de ses membres, mais de laisser faire pour d'autres, pour des institutions, et au final, ça ne se résout pas. Et ça n'est pas soluble. Et c'est un moment de monde, enfin du monde, de l'histoire du monde, de l'histoire des États-Unis plus précisément, qui est tellement riche, trouble et frénétique que c'est intéressant d'essayer d'en rendre compte, mais qu'il n'y a probablement pas de vérité dernière à en tirer.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mais alors, pour revenir sur ce que disait Sophie, moi je me suis posé la même question. Est-ce qu'il y a un moment où le monsieur X, il intervient à un moment et il te balance toutes les vérités de plein de trucs et des clés de lecture de choses où tu fais « Ah ouais ?» Et en fait, effectivement, moi, je suis persuadé que c'est le moment où Stone décide qu'il raconte sa version à lui, sa vérité à lui, sa fiction. Et à moi, c'est pas juste le moment où le récit devient plus limpide, c'est le moment où, en fait, avec le recul, je me dis « C'est là que le réalisateur me dit « Maintenant, fais-moi confiance. » T'as vu, au début, je t'ai présenté plein d'hypothèses. Maintenant, viens mais suis-moi.
Mystery X, c'est la synthèse, je crois, de trois anciens militaires américains.
Oui, c'est trois indicateurs que Garrison a rencontrés à des moments différents et que, pour le bien de la fiction, pour que ça aille un peu plus vite, Stone a condensé en un seul
personnage.
Mais
d'un point de vue purement narratif, c'est effectivement ce que tu disais, le côté brouhaha qui, d'un seul coup, devient limpide et linéaire.
Alexis.
En fait, le film m'intéresse, déjà, il faut quand même parler un tout petit peu des théories de la conspiration autour de la mort de Kennedy. Il y en a évidemment un sacré paquet qui sont complètement fantaisistes, ou bien certaines qui pourraient être crédibles, mais qui ne sont pas du tout étayées par quoi que ce soit, donc il vaut mieux ne pas y croire. Mais si on la compare par exemple à un autre événement tragique qui a frappé les États-Unis et qui a donné lieu à une chier de théories conspirationnistes, le 11 septembre 2001, il y a quand même une petite différence notable entre ces deux événements, c'est que dans le cas du 11 septembre 2001, toutes les théories du complot, quelles qu'elles soient, vont dans le sens contraire de la science. Par exemple, il y a des conspirationnistes qui vont vous dire, en fait, il y avait des explosifs dans les bâtiments parce que les tours, elles sont tombées toutes droites. Ça veut dire qu'il y avait de la démolition contrôlée parce que sinon, ça tombe sur le côté. La science a répondu, non, absolument pas. En l'occurrence, la partie supérieure est tombée sur la partie inférieure qui elle-même est tombée sur la partie encore inférieure et ça a fait château de cartes. On peut l'expliquer scientifiquement, donc c'est du bullshit. Dans le cas de Kennedy, il y a des éléments qui ont été présentés d'une certaine manière par la commission Warren, alors que la science ne serait pas d'accord avec ça. Par exemple,
la fameuse balle magique.
Alors, la balle magique en est une, mais il y a un exemple qui est même encore plus évident. Selon la commission Warren, Lee Harvey Oswald a été le seul tireur. Ça veut dire que la balle qui a atteint Kennedy à la tête vient forcément de derrière. C'est mathématique, parce que la voiture, elle est devant Lee Harvey Oswald à ce moment-là. Donc, la balle vient de derrière. Si on tire sur quelqu'un dans le dos, la personne tombe sur le ventre. L'impact de la balle propulse la personne vers l'avant. Quand on regarde les images du film de Zapruder, que d'ailleurs Garrison a été le premier à diffuser au public, hein. À l'époque, les images étaient consignées, c'est aussi raconté dans le film. Quand on regarde ces images-là, on voit bien que Kennedy tombe vers l'arrière. Et ça, normalement, si on prend la situation d'un point de vue balistique, c'est pas possible. Normalement, la balle, si elle atteint l'arrière de la tête, Kennedy, il tombe vers l'avant, il n'est pas tombé vers l'avant. Et donc, quand la commission Warren rend ses conclusions, ce sont des conclusions qui vont dans le sens contraire de la science. Ça veut dire que ce cas précis, il y a des théories du complot autour de John Fitzgerald Kennedy qui sont étayées par des concepts scientifiques qu'on connaît et qu'on est capable de démontrer. Par exemple, la fameuse trajectoire de la balle magique qui ricoche 7 fois dans des directions absurdes. Ils ont fait les tests balistiques à l'époque, que la commission Warren a en grande partie ignoré, c'est un fait. Hein. Ils ont fait les tests balistiques, ils n'ont jamais été capables de reproduire une trajectoire pareille. Et on l'a jamais observé avant, on l'a plus jamais observé depuis. Il est quand même plus raisonnable de penser qu'il y avait plusieurs tireurs. Et comme le dit Garrison, à partir du moment où on admet qu'il y avait ne serait-ce que 2 gars, c'est une conspiration. Qui peut-être ne concerne que ces deux mecs-là, mais ces deux mecs-là, ils ont bel et bien conspiré ensemble pour abattre le président. Et du coup, c'est bizarre que la commission Warren s'entête à ne vouloir valider que la théorie du tueur unique. Et c'est là où du coup le film devient vertigineux, c'est que, évidemment, il y a de la fiction, évidemment que Oliver Stone, et en plus ça s'est vérifié dernièrement, il est vraiment très très conspirationniste et parfois beaucoup trop, n'empêche qu'il a quand même mis le doigt sur un truc, qui est que, il y a quelque chose qui cloche dans l'enquête officielle de la commission Warren, peut-être juste parce que cette enquête a été bâclée, hein, ils n'ont peut-être pas voulu dissimuler quelque chose, ils sont peut-être juste incompétents, hein, il faut le prendre en compte, mais de fait, il y a quelque chose qui cloche. Et tout le film nous pose comme hypothèse, même si Oliver Stone y croit fort, ça reste une hypothèse, il pose comme hypothèse que, en fait, tout est possible à partir du moment où l'enquête officielle est bâclée, à partir du moment où il y a des problèmes, en fait, tout est possible. Et on peut dérouler plein de choses. Là où je trouve le film vertigineux, c'est que moi, je termine jamais le film totalement convaincu qu'il a raison, ni totalement convaincu qu'il a tort. Et en fait, c'est là où le film réussit sa mission. C'est qu'il aurait pu être vraiment dans une tentative de « je veux convaincre mon public à tout rompre ». Et je pense pas qu'Oliver Stone soit dans cette démarche vraiment à l'époque. Je pense qu'Oliver Stone est dans cette démarche de « posez-vous des questions ».
Bah, la preuve avec le
même si cette question mène nulle part. Tu vois.
Avec le plaidoyer de fin qui se termine par un regard caméra qui dit « c'est à vous décider ».
C'est ça.
C'est exactement ça.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on décrit beaucoup JFK comme étant, je le disais, le patient zéro du procédural. En fait, on se rend compte qu'on est exactement dans cette mixture, ce mélange cinématographique très propre à Oliver Stone, qu'on pourrait appeler, je sais pas, un docudrama, par exemple, quelque chose comme ça, et que c'est vraiment ce type de parcours-là, ce type de narration-là, c'est-à-dire ce type d'appropriation d'une vérité, d'une réalité historique, d'un personnage historique qui va l'intéresser et qui l'intéresse depuis le début. Simon ?
Oui, en fait, propre à Oliver Stone, Absolument. Est-ce que c'est du docudrama? Je sais pas. J'aurais tendance à dire, je sais pas, de la boule à facettes cataclysmique, si tu veux. C'est-à-dire que c'est effectivement un film qui va être capable de théoriser jusqu'à un certain niveau quand même, tu vois, de concept. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que c'est que le fait d'interroger la vérité? C'est un film qui est capable de faire ça en te foutant au milieu de purs personnages de cinoche, enfin je veux dire, qui sont interprétés par Joe Pesci et Tommy Lee Jones,
ouais,
qui sont quand même, je veux dire, qui sortent d'un espèce de mélange de roman noir et de chronique, tu vois, de chronique des bas-fonds de la Louisiane, que tu ne t'attends pas forcément à voir quand tu vas voir un film sur le meurtre de JFK. Et il est capable, à côté de ça, de te faire un espèce de portrait presque à la Capra, tu sais, de Garrison, cet homme. C'est-à-dire que.
Bah d'ailleurs, il filme Garrison au Lincoln Memorial comme Capra filmait James Stewart au Lincoln Memorial dans Mr. Smith au Sénat.
Ouais. Exactement. Et donc, en fait, il y a comme ça quelque chose qui est, me semble-t-il, absolument dément dans, et qui n'est propre qu'à Stone, qui est capable de faire du cinéma avec du réel, de donner l'impression, l'illusion de faire du réel avec du cinéma, de secouer tout ça avec une énergie démente. Et en même temps, quand même, combien de fois on a dit à ce micro qu'un des problèmes du cinéma qui s'attaquait à des biopics, des personnalités ou des faits très connus, c'était que si tu devais reproduire une archive, c'est-à-dire si tu dois faire moins bien que ton archive, t'es foutu. Mais le film arrive à la fois à reproduire des archives, à montrer des archives, parce que je pense que c'est quand même une des premières fois dans la fiction qu'on montre comme ça une mort plein cadre en image réelle, à savoir la mort de Kennedy. Enfin, c'est quand même très étonnant ce que fait Stone. Et moi, je vois pas bien beaucoup d'équivalents. Ce que j'essayais de dire en préambule, ce que je trouve le plus intéressant avec le film, c'est que c'est un espèce de magma mutant absolument unique.
Mais sur ce point précis, pour rejoindre un peu la question de Nico, pour moi, là où la notion de docudrama se pourrait vraiment se poser, c'est sur l'intégration des images d'archives, justement. Et il y a un truc que je trouve vraiment très fort, c'est que effectivement on va avoir cette question de la reconstitution, donc à quel moment, quand lui il imagine où se positionnerait le tueur, etc., là dans ce coup on intègre des archives pour illustrer son propos, et sauf qu'à la fin l'image d'archive sert à tout à fait autre chose, puisqu'il montre image par image, frame par frame, il revient sur le bout de cadavre. Et là, du coup, il analyse l'image d'archive. Et donc là, on rentre dans du quasi-documentaire à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de forme qui est trouble, et je rejoins un peu Nico là-dessus. Cette scène dans le procès où il va montrer image par image le montage
du film de
l'assassinat réel, j'ai trouvé ça mais fou de l'intégrer dans le récit, de l'intéresser de cette manière là j'ai trouvé ça dingue, parce que ça trouble encore plus la frontière entre réalité et fiction. Je trouve que vraiment le film surfe avec ça en permanence, et l'utilisation des images d'archives, ça en fait vraiment partie.
Ouais, puis il se contente pas juste de pour les gens qui n'ont pas vu le film, c'est peut-être pas évident de comprendre ça, mais il se contente pas juste de mettre des images d'archives dans le film, ce que font beaucoup de films historiques. Bah, à la fin du Elvis de Baz Luhrmann par exemple, on a tu vois, on a une vraie image du Elvis sur scène qui se télescope avec celle d'Austin Butler. Non, là ce qu'il fait, c'est qu'il va les manipuler, ces images. Il va les superposer, il va zoomer dedans, il va les répéter. En fait, il va faire du montage, tout simplement. Et le truc, c'est que ces images d'archives, et c'est un peu difficile à entrevoir peut-être avec un œil français, en tout cas européen, ces images d'archives, pour moi, elles fonctionnent comme vraiment de la matière à cauchemar. C'est-à-dire que ce traumatisme-là, les États-Unis, ils n'ont jamais vraiment tourné la page. Et d'utiliser ces images-là de cette manière, pour moi, c'est vraiment une espèce de retour permanent d'un traumatisme refoulé qui ne veut pas passer, qu'on n'arrive pas à digérer, et qui fait irruption en permanence dans le film, et qui effectivement, à la fin, sera commenté, analysé par Garrison. Et moi, j'y vois presque une espèce de manière pour l'Amérique, symbolisée à ce moment-là par Garrison, de reprendre le contrôle sur ces images-là, justement en essayant de faire venir de la vérité, quoi. Si on arrive à trouver la vérité de ces images, on pourra enfin faire le deuil de ces images et on pourra enfin les laisser de côté, sauf qu'on sait toujours pas quelle est la vérité qui se cache derrière, donc elles reviennent sans cesse.
Mais aussi parce qu'il y a manipulation de la part de Garrison, parce que quand tu suis sa voix off, tu as des images qui sont des pures images de fiction, vu qu'on y voit Gary Oldman qui interprète Harvey Oswald, qui commence petit à petit à être filmé comme un personnage d'archive, ouais, en 16mm, ouais, en noir et blanc, et qu'on essaye de faire rentrer dans l'idée qu'il serait dans une espèce de régime de l'archive, ce qui n'est pas du tout, vu que c'est un personnage fictionnalisé, interprété par un acteur. Et donc, on avance, on essaye d'avancer, de zoomer vers la vérité d'un côté, tandis qu'on recule vers la fiction de l'autre. Et ça, c'est assez passionnant.
Un dernier tour de table pour parler justement de la place de JFK dans la filmographie d'Oliver Stone. Il est, c'est peut-être son film acmé, son film le plus célèbre, Alexis. Néanmoins,
il y a Platoon quand même.
Il y a Tuerné quelques années après.
Il y a Tuerné quelques années après. Platoon et Tuerné ne sont pas mes préférés de 86, d'Oliver Stone. La même année que Salvador. Ouais. Il a charbonné cette année-là. Je pense que c'est son film somme. C'est un de mes films préférés, néanmoins, c'est peut-être pas mon préféré. Moi, je pense que le petit coup de cœur ira vers L'Enfer du Dimanche, qui est complètement taré. Donc si vous n'avez pas vu L'Enfer du Dimanche, c'est un film sur les coulisses du football américain, et croyez-moi qu'il n'y a que Oliver Stone qui pouvait filmer un truc pareil. Voilà. Mais en tout cas, c'est un film qui est vraiment au cœur de l'âge d'or d'Oliver Stone, parce que, on va pas se mentir, sa carrière, elle a quand même salement décliné ces dernières années, il fait plus grand chose, et quand il fait des trucs, bon, c'est pas terrible. Donc ouais, JFK, film somme évidemment d'Oliver Stone, et peut-être le film le plus tardif du Nouvel Hollywood. Parce que pour moi, c'est pas loin d'être un film du Nouvel Hollywood, même si dans sa facture, il est quand même bien différent et un peu plus classique aussi par moment. Mais thématiquement, c'est quand même un film du Nouvel Hollywood sorti en 91, ça vaut le coup d'œil.
Simon ?
Je partage à peu près tout ce que vient de dire Alexis. Moi aussi, celui qui est le plus cher à mon cœur, ça reste L'Enfer du Dimanche, qui est, ouais, je pense, le dernier grand Stone, le dernier grand Al Pacino aussi, peut-être.
The Irishman, hein. Mais bon.
Il est pas... Non, mais
oui, mais je suis d'accord, mais il n'est pas au niveau de Any Given Sunday.
Il n'est pas au niveau de Any Given Sunday, quoi. Et quand bien même, il est très bon dans The Irishman, c'est pas le problème. Enfin, et puis, il y a aussi la plus belle énucléation, je pense, de l'histoire du cinéma, qui est pas mal. Énucléation sur pelouse synthétique, ça fait son petit effet. Jamie Foxx, c'est bon. Et voilà.
Il faut le noter.
Il faut le noter, hein. Je pense que lui aussi, des fois, il doit se dire, putain, j'y suis arrivé au moins une fois, quoi.
Bon, c'est de Miami, quand même.
Ouais, je suis désolé, de Flic à Miami.
Ah ouais, attends, Miami Vice de Michael Mann, quand même.
Oui, je pense qu'on pouvait mettre une plante verte à côté.
Allez, Sophie.
Moi, ce sera The Doors, notamment parce que tout film qui a Kyle MacLachlan a un bonus. En plus, là, il joue Raymond Zarek et je trouve que c'est un des plus grands rôles de Val Kilmer. Et voilà, genre, je suis un peu à contre-courant sur ça, mais c'est un film qui a bercé mon adolescence et c'est vraiment un très très chouette biopic.
Le seul rôle de Val Kilmer, peut-être aussi d'ailleurs.
Oh.
Arthur, mais les gars, t'as des balles perdues pour rien là.
C'est ouf.
Moi,
Top Gun, merde.
Si j'étais un peu de mauvaise foi, je vous dirais que j'aime beaucoup Savages, ce qui est vrai. Je trouve que c'est un film qu'on considère comme étant pas ouf, mais en fait, je pense
c'est gentiment cool.
C'est quand même plutôt cool. Non, moi, je pense qu'en dehors de JFK, mon préféré, c'est Salvador. Salvador qui fait donc c'est son troisième ou quatrième film sur un photoreporter pendant qui va en guerre. Enfin, franchement, je trouve le film fou de bout en bout. La réal est complètement tarée, ce qu'il réussit à faire et à raconter. Moi, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Et puis James Wood, quoi.
Et puis Oliver Stone a quand même écrit Scarface. Ça se pose là en termes de scénario.
C'est marrant, personne n'a cité Alexandre Legrand, par contre.
Moi, j'aime beaucoup Alexandre Legrand.
Hein. Je ne l'ai pas vu depuis très, très longtemps.
Ah ouais, j'aime beaucoup.
Donc, voilà. Mais...
Et toi, Nicolas ?
Qu'est-ce que je peux vous dire ? Non, moi, je ne suis pas un grand fan d'Oliver Stone. Je trouve toujours ça un peu lourdingue, un peu empoulé, un peu démonstratif. C'est pas un réalisateur que je porte dans mon cœur particulièrement. Je vous dis, je n'ai pas beaucoup participé à ce débat parce que je n'ai pas revu JFK depuis sa sortie. Et encore, ouais, je réfléchissais, je pense l'avoir vu au cinéma, mais non, j'ai dû le voir en VHS. Parce qu'effectivement, en 91, j'étais peut-être un petit peu jeune. Enfin, je l'ai vu peu de temps après sa sortie. Mais voilà, j'aime pas beaucoup Tuerney. J'ai pas vu L'Enfer du Dimanche, donc ça me donne envie de vous me donnez envie de voir L'Enfer du Dimanche qui me permettrait peut-être de sauver un peu JFK, mais pour moi Stone a toujours été un réalisateur qui a jamais emporté complètement mon enthousiasme. Voilà. JFK d'Oliver Stone avec Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Joe Pesci, Gary Oldman, Laurie Metcalf est donc ressorti chez Atelier d'Images en Blu-ray 4K en version Director's Cut, et vous pourrez nous dire en commentaire si vous êtes plutôt JFK, si vous êtes plutôt LaGuardia ou Newark. Excellent.
Ouais,
ça c'est une vanne que ne comprendront que les bourgeois qui ont les moyens de prendre l'avion.
Exactement.
Et bah moi j'ai pas les moyens de prendre l'avion et j'ai compris.
Et bravo tac, Simon.
Bravo. Super. Bravo à
toi. Je suis un pauvre instruit, monsieur.
Ouais,
t'es un faillot.
Et pour la carte surtout. Blanche. Et pour la carte blanche, je vais peut-être réussir à
dire une phrase.
Non, je vais peut-être arriver à pied par le Chine.
Oh.
Godzilla.
Ah.
Excellent. Non, en fait, ouais, je voulais vous parler parce qu'on a beaucoup parlé de Godzilla Minus One. Et moi, j'ai découvert il y a assez peu de temps, et ça tombe bien parce que ça ressort sur Filmo TV, Shin Godzilla, qui est sorti en 2016. Pour vous parler de Shin Godzilla et pour vous parler de cette série de films, puisqu'il y en a d'autres, en fait, je vais vous parler surtout de Shin Ultraman, mais il y en a un autre. Il y en a un autre.
Shin Kamen Rider.
qui s'appelle Shin Kamen Rider, absolument. J'avais compris Shin Kamen Rider, j'étais là, qu'est-ce que c'est que... Je ne connais pas la vanne. Shin Kamen Rider, absolument. Il faut savoir que derrière ces films-là, il y a une personne, un auteur de génie, un réalisateur, un scénariste brillantissime du cinéma japonais, qui est Hideaki Anno, et qui a passé globalement toute sa carrière à prendre les grands mythes japonais et les grands mythes audiovisuels, cinématographiques, littéraires ou de manga japonais, et à les transformer, à les malaxer pour en sortir un résultat qui s'apparente vraiment à un dimanche après deux nuits sans dormir, avoir pris beaucoup de produits psychotropes et être dans une forme de descente absolument catastrophique. C'est-à-dire qu'il voit tout et il repasse ces mythes qui sont vraiment des mythes fondateurs de la culture japonaise par un prisme qui est un prisme extrêmement personnel, qui a quelques invariants dont on va parler et qui termine par rendre des objets cinématographiques à la fois passionnants et en même temps toujours extrêmement dérangeants. Hideaki Anno, vous le connaissez certainement et avant tout parce que c'est le père de la merveilleuse série Evangelion. Il a commencé Anno dès la fin des années 90 par un film que j'avais vu en salle, il me semble que c'était à l'Étrange Festival, par Gamera 1999. Gamera qui est la sœur ou le frère jumeau de Godzilla. C'est une tortue nucléaire qui n'est pas arrivée autant en Europe que Godzilla, mais qui est tout aussi populaire au Japon. Et donc Gamera 1999, d'un seul coup, il transformait complètement les codes de narration et il en faisait un vrai film de monstres, de super-héros monstrueux, tout en gardant absolument tous les codes des films de kaiju. Tout ça pour vous dire que Hideaki Anno se lance dans une sorte de reboot d'un certain nombre de ces univers. Il fait donc Shin Godzilla en 2016 et il va faire Shin Ultraman en 2022. Ultraman, c'est qui ou c'est quoi ? Ultraman, c'est là aussi vraiment un pilier de la culture télé et ciné japonaise. C'est le premier super-héros tokusatsu, c'est-à-dire que c'est-à-dire en prise de vue réelle, qui lutte contre les kaiju à la télé japonaise. Il vient, en fait, il y a une première série qui s'appelle Ultra Q et qui va être une série de une série. On est dans les années 60, hein, on est très très tôt. Une série de gros monstres avec vraiment classiquement des personnages, des acteurs ou des actrices dans des costumes en latex à l'échelle et qui viennent détruire. Et donc on a le plaisir qu'on va retrouver et qu'on va retrouver d'ailleurs dans tous les animés, y compris les animés type Goldorak, etc., avec le monstre de la semelle Mazinger Z, on retrouve, mais aussi plus tard dans Sailor Moon. Et après cette série Ultra Q, dont le premier monstre, d'ailleurs, et c'est important, est ni plus ni moins qu'un costume de Godzilla auquel on a rajouté des petits bouts par-dessus pour qu'il lui ressemble quand même pas trop, va sortir donc en 1966 le premier reposant à ces kaiju dans le personnage d'Ultraman. Alors Ultraman, qu'est-ce que c'est ? Vous l'avez peut-être vu, c'est ni plus ni moins un acteur dans un costume en alu. Voilà, dans un costume en alu avec une tête de robot. Et il est géant et donc il lutte tout en détruisant aussi un petit peu au passage. Hein. C'est pas exactement encore un méca, c'est pas Goldorak ou Mazinger Z. C'est une entité extraterrestre qui s'incarne dans un être humain et il tire des rayons laser par le bout des doigts. Il lance aussi des espèces de roues tranchantes qui permettent de vaincre les kaiju. Il fout globalement des grosses beignes et des coups de laser découpeur dans la tronche de ces monstres. C'est en gros Ultraman, le grand-père de Bioman pour les plus jeunes. Je vais dire, mais vraiment en me faisant mal à la glotte, Power Rangers pour les vraiment très très jeunes. Et Ultraman, c'est vraiment majeur au Japon. C'est-à-dire, pour vous donner une idée, entre les débuts d'Ultraman, il y a eu un nombre incalculable, mais comme Godzilla, de sorties, de déclinaisons, etc. C'est-à-dire, entre 66 et 87, c'est-à-dire en 20 ans, en équivalent de chiffre d'affaires, c'est 20 milliards de ventes de merchandising. Wow. 20 milliards! Donc c'est énorme, c'est-à-dire que c'est vraiment un pilier Ultraman. Et donc c'est intéressant de voir ce que Anno va en faire avec précisément son esprit tordu et comment il va récupérer finalement cette esthétique qui est quand même éminemment, on va pas le dire, mais enfin on va pas se mentir, qui est éminemment ringarde. Si vous voyez aujourd'hui les épisodes d'Ultraman, vraiment ça pique les yeux. C'est
aussi entre le ringard et le kitsch.
C'est kitsch à crever.
Mais... Et,
Oui. Pardon, excuse-moi, mais Shin Godzilla, c'est réalisé par Anno et un mec qui s'appelle Higuchi, et c'est Higuchi qui a réalisé
Shin Ultraman.
Shin Ultraman, c'est pas.
Anno, il est scénariste et producteur derrière. C'est pas lui qui réalise.
Il a co-scénarisé Shin Godzilla, il a réalisé
Shin Godzilla et Shin
Kamen Ultraman. Rider, et il a.
Exactement.
Ok, pardon, je suis un peu perdu, j'essaie de suivre.
Tu as tout à fait raison. Et donc, qu'est-ce qu'il en fait? Eh bien, déjà, c'est passionnant parce qu'il va, il va convoquer toute la culture. C'est-à-dire que tout le début, toute la première partie de Shin Ultraman, c'est y a des kaijus qui arrivent. Et donc, les êtres humains arrivent plus ou moins à les encadrer. Et tous les kaijus qui vont sortir sont les kaijus de Ultra Q, qui était la première série, si vous avez bien suivi, avant Ultraman. Et puis, il va revenir avec ce héros extraterrestre. Et d'un seul coup, tout devient remarquablement inquiétant, parce que on est vraiment dans du pur évangélion. C'est-à-dire que non seulement les kaiju d'un côté vont passer de grosses bestioles en latex, avec en plus une esthétique comme dans Shin Godzilla très old school, et c'est-à-dire très proche finalement du rendu des créatures originelles, et petit à petit on va s'éloigner et on va aller de plus en plus vers une sorte d'abstraction complètement flippante. C'est-à-dire que Anno a cette qualité pour créer, je sais pas si vous vous souvenez dans Evangelion, au fur et à mesure les anges, ça devient des espèces de figures géométriques, c'est-à-dire qu'on perd complètement la capacité d'incarnation, et il continue, et on arrive à trouver ça dans Ultraman. Mais surtout, ce qui est absolument génial, c'est la façon dont il a de rendre Ultraman, qui est finalement cette espèce de grand extraterrestre ou de grand être de métal avec aucune expression, un visage complètement neutre, et de retourner finalement cette espèce d'apparence qui pourrait être kitsch en quelque chose qui devient totalement anxiogène. C'est-à-dire que finalement, avec ce personnage dont on ne sait rien, qui ne communique pas avec les êtres humains, qui est là juste pour lutter contre les kaiju, mais qui pourrait tout aussi bien se retourner contre nous, il a des yeux d'insecte, en fait il est complètement terrorisant. Et on voit là exactement tout l'enjeu du cinéma et des narrations d'Hideaki Anno, c'est-à-dire que les êtres humains sont des insectes coincé entre des forces qui les dépassent. C'est-à-dire que c'est une pensée qui est une pensée complètement lovecraftienne, et de se dire finalement, nous sommes coincés entre des géants qui ont peut-être des ambitions, des intentions qui nous échappent. Pourquoi sont-ils là? Est-ce qu'ils sont vraiment là pour nous détruire? Pourquoi nous, au Japon? Parce que ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui parcourt toute l'œuvre. C'est déjà dans Shin Godzilla, c'est à nouveau dans Shin Ultraman. Pourquoi est-ce que ça se passe sur notre terre, sur nous? Pourquoi est-ce que c'est sur nous, les Japonais, que ça tombe? Et d'un seul coup, avec tout un fond politique, avec les États-Unis qui vont se servir du Japon pour, voilà, comme une terre d'expérimentation, en disant, voilà, il faut contenir les choses chez vous parce qu'il ne faut pas que ça arrive sur le reste du monde. Et donc, on est chez Anno, l'être humain est une petite fourmi impuissante, coincée entre des monstres et entre des espèces de divinités qui sont finalement, quelle que soit leur intention, bénéfique ou maléfique, totalement capables de nous détruire d'une pichenette sans qu'on ait aucune emprise et aucun moyen de les contenir. Et c'est vraiment, les êtres humains ne sont que les victimes de cette espèce de fatum qui s'abat en venant de l'espace. Et moi, je trouve ça en fait absolument merveilleux. D'ailleurs, il y a une scène de lutte entre deux Ultraman où on voit bien que les deux ont exactement la même puissance destructrice et peuvent être tout à fait aussi néfastes pour l'humanité que ce que Ultraman devrait être, enfin, en tant que héros de la nation japonaise, est présent pour nous sauver. Et donc voilà, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous n'avez pas vu ces versions un peu dérangeantes, troublantes et assez puissantes de cette revisitation des grands mythes de l'imaginaire et de la culture ciné et de kaiju japonaise, foncez voir Shin Ultraman. Ça vous permettra déjà d'oublier, d'enlever les images de Bioman, de Xor, de Spectreman de votre esprit. Et il y a effectivement un Shin Kamen Rider qui est sorti au mois de mars 2023. Kamen Rider, c'est une autre série avec un héros insectoïde qui est à peu près aussi flippant que les monstres qu'il combat. Et que je n'ai pas vu encore, mais que je vais essayer de voir bientôt. Oui, Arthur.
Moi, j'ai juste une question pour toi, Nico, parce que je t'écoute et en fait, moi, j'ai pas du tout grandi avec cette culture-là, donc je suis un peu paumé. Là, j'ai une question à te poser toute simple. C'est accessible en vrai ou
c'est totalement accessible? C'est hyper jouissif. Tu peux y aller, c'est hyper jouissif.
C'est du reboot, c'est fait pour. C'est une relecture, reproposition.
Parce que j'ai l'impression que tu cites plein de trucs différents, d'œuvres différentes, de versions d'œuvres différentes. J'ai l'impression que c'est très érudit, quoi.
Non, ça l'est pas du tout. C'est simplement pour donner le contexte, parce que ça a été tellement, tellement refait, il y a eu tellement de suites, de spin-off, etc., que là, la volonté de Anno, c'est de repartir de zéro en proposant une version qui balaye toutes les autres. Et en même temps, voilà, de continuer à jouer, parce que, je sais pas, on peut en parler, parce que t'as vu Shin Godzilla, Simon?
Oui.
Il garde cette esthétique qui flirte avec le kitsch, avec les oui. premières versions du Godzilla qui sont vraiment avec ces espèces de dieux un peu bizarres, etc., qu'on retrouve dans Shin Ultraman.
Il respecte tous les codes. Il respecte tous les codes, il les revisite, il les réimagine un petit peu, il les booste techniquement, et puis il les met en scène avec beaucoup d'inventivité et de respect. Mais effectivement, mais un petit peu comme Godzilla Minus One le faisait également il y a quelques semaines. Hein,
oui, mais si ce n'est que Godzilla, c'est quand même un truc qui est vachement plus dans l'imaginaire collectif. Que Ultraman.
Parce que Godzilla.
Oui, mais regarde.
Parce que Godzilla a traversé un peu plus, les océans, etc.
Bien sûr.
Ultraman est au moins aussi populaire, si ce n'est plus populaire au Japon que Godzilla. Hein.
Oui.
Oui, mais regarde, t'as vu Godzilla Minus One. Je pense que si c'était le premier Godzilla que tu voyais, t'aurais quand même tout compris tout ce qui se passait.
Oui.
Voilà. Et alors,
Shin Godzilla, c'est pareil.
Et Shin Godzilla, c'est pareil. Et voilà, disons que si tu veux, tout ce que tu pourras avoir d'arrière-plan culturel en plus te permettra de voir là où il fait des décalages, là où il change quelque chose, ce que lui apporte, c'est la pierre singulière que c'est à l'édifice. Mais c'est des films qui sont. Alors, pareil, j'ai pas vu Shin Kamen Rider non plus. Mais Shin Godzilla, c'est parfaitement accessible. De ce que me dit Nicolas et de ce que je pense voir de l'entreprise d'Anno, oui, je pense que c'est tout à fait accessible. Enfin, si t'es curieux de le voir, en tout cas, tu vois, ça va pas te sembler abscon.
Non, non, c'est et puis tu vas voir, c'est vraiment bizarre. C'est des films qui titillent. C'est-à-dire que c'est des films qui ne jouent pas sur le déroulé habituel des films de kaiju, de héros, etc. C'est des films qui vont te prendre un peu par la tangente, qui vont te mettre un peu dans une sorte de malaise un peu bizarre. Et voilà, moi, je trouve ça absolument brillant, en fait. Voilà.
Moi, de ce qu'on m'a dit, c'est que Shin Godzilla, c'était via le prisme de l'administration et du blocage administratif japonais, c'est ça ?
C'est beaucoup ça. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à prendre de décision et du coup, et puis ça rappelle, enfin là pour le coup, Shin Godzilla, c'est vraiment wink wink Fukushima. On retrouve un peu ça dans Shin Ultraman, mais d'une autre façon et ce que je disais, c'est vraiment de l'impuissance des êtres humains face aux créatures qui se battent sur son territoire. Et bien voilà. Mes amis, je crois que c'est tout pour aujourd'hui.
Eh oui.
Est-ce que vous avez envie d'aller voir Shin Ultraman ?
Moi, peut-être commencer par le Godzilla.
Tu peux prendre les deux, ils sont indépendants.
Si ce n'est que le Godzilla sort sur Film TV, donc voilà.
Ouais. En tout cas, vendredi, il sera question de Métaciné et de Bamikoton Mylène. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ça ?
Quoi ?
Ah oui, ça y est, je l'ai. Bon, vous trouverez vous-même. Et peut-être qu'on peut dire un petit mot de l'épisode bonus pour nos amis d'Acast Plus qui vont pouvoir écouter à partir de demain, si vous nous écoutez aujourd'hui, mardi.
Et oui, vous entendrez eh bien, le premier volume, le premier essai, parce que logiquement, ça pourra aussi être amené à muter un petit peu avec le temps, d'après une histoire fausse, dans lequel je vais revenir sur les connexions, les liens, les rapports entre le cinéma et la littérature. Je commencerai par Le Festin Nu, qui est un roman de William Burroughs, adapté par David Cronenberg au cinéma. Et à travers l'exemple de ce roman et de ce film, je me poserai la question des œuvres inadaptables. C'est-à-dire, comment David Cronenberg est-il parvenu à porter au cinéma un texte qui avait la réputation pas franchement usurpé sur le papier, d'être tout à fait inadaptable parce que c'était une expérimentation formelle, parce que c'était un délire introspectif complètement fou de la SF taré et un truc plein de drogue, de sexe homosexuel et de drogue et de sexe homosexuel. Eh bien, comment, en étant très infidèle au matériau de base, il s'est en fait autorisé à devenir très proche de ce qu'il voulait raconter.
Et n'oubliez pas, jeudi, si vous êtes en région parisienne, de passer faire un tour à l'Hurlequin. Jeudi soir, c'est au cinéma de l'Arlequin, rue de Rennes, à Paris. Et j'y diffuserai The Nightingale, le deuxième film, le deuxième long-métrage de la réalisatrice australienne Jennifer Ken, qui avait réalisé Mr. Babadook. Venez, venez nombreuses et nombreux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bye les amis, donc, et gloire au passé.
Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.